הבנת? J'aimerais que nous allions dans le psaume 119. Comme vous le savez, le psaume le plus court de la Bible. Seigneur, merci pour ta parole déjà donnée avec abondance ce matin et Seigneur, je prie pour que tu saisisses nos cœurs et que chacun nous recevions, Seigneur, la grâce de comprendre, d'entendre et d'être transformé par cette parole. Amen. Et on va prendre un verset qui est inconnu pour tout le monde, le verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je pense qu'avec Jean 3,16, ça doit être le verset le plus connu, justement dans la parole de Dieu. Et c'est justement parce que ce sont des versets connus que peut-être on passe dessus un peu trop rapidement, alors qu'il y a énormément de choses à en tirer. Tout croyant a, je pense, enfin j'espère, la volonté de se sentir utile, de se sentir capable de faire quelque chose ou d'être quelque chose peut-être. En tout cas, d'être utile entre les mains du Seigneur, entre les mains du Maître. Et dans, lorsqu'on réfléchit et qu'on se dit, mais comment est-ce que je peux être utile, on s'aperçoit que ce qui est important lorsque nous déclarons vouloir servir le Seigneur, ce n'est pas tellement de savoir ce que l'on va faire, ni où on va aller, mais c'est d'être sûr que l'on a entendu le Seigneur nous parler. Ce n'est pas tout de dire, moi je vais aller là, je vais faire ceci, je vais faire cela. Ça c'est facile, d'une certaine manière. Les opportunités sont extrêmement importantes et nombreuses. Mais quelle est la voie que nous avons écouté lorsque nous avons déclaré « Je vais servir Dieu ». Dans Jean 4, il est dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Notre vie spirituelle n'a aucun sens si nous n'écoutons pas la parole de Dieu. Nous pouvons accomplir toutes les bonnes choses. Si la parole qui nous vient et si celle que nous écoutons n'est pas la parole de Dieu, alors tout ce que nous faisons n'a pas de sens. Et David, un homme de l'Ancien Testament, avait découvert que c'était la parole de Dieu qui éclairait son chemin. La parole était utile pour lui pour ne pas trébucher, parce que quand nous sommes éclairés sur un chemin, nous ne trébuchons pas. La parole lui permettait de voir suffisamment pour marcher en toute sécurité. Écouter la parole et agir sont deux choses qui doivent aller ensemble. On ne peut pas dire « Dieu m'a parlé » et faire comme Jonas, partir dans l'autre sens. C'est une façon d'agir aussi. Mais il faut que les deux choses soient concomitantes. Il faut qu'elles aillent ensemble. J'écoute et je fais. Il est tout à fait possible d'entendre la bonne parole de Dieu et de faire l'opposé, n'est-ce pas ? Jonas est l'exemple. Mais est-ce que dans nos vies, nous n'avons pas aussi des exemples de cela ? Dimanche après dimanche, j'ai entendu le Seigneur me dire de faire ceci, de ne pas faire cela. Je l'entends bien. Je l'entends clairement. Je l'entends de façon audible. Et pourtant, j'accomplis à l'inverse. On peut donc entendre la bonne, je souligne, la bonne parole de Dieu et désobéir. Dans Jérémie, au chapitre 18, Jérémie criait au peuple, « Réformez vos voies et vos œuvres. » En d'autres termes, « Convertissez-vous. » Changer de façon de faire. Et le peuple répondait, c'est en vain, car nous suivons nos pensées, nous agissons selon les penchants de notre mauvais cœur. On a d'un côté un Dieu pur et juste et saint qui veut le bien de son peuple, qui crie au travers de son prophète ou de ses prophètes. Changez, réformez votre cœur. Et nous avons de l'autre côté un peuple qui, en toute connaissance de cause, volontairement déclare, c'est en vain que tu cries. Nous marchons selon les penchants de notre mauvais cœur. Si nous aimons le Seigneur, alors nous agissons au son de sa voix. Pour éviter d'obéir, nous avons beaucoup d'arguments. Nous sommes capables d'expliquer à Dieu pourquoi nous désobéissons. Et nous sommes parfois très rationnels, et on peut parfois même trouver des motifs bibliques de le faire. J'entends la parole de Dieu, et je discute avec Dieu pour lui dire et lui expliquer pourquoi je n'obéis pas. Alors, ce n'est pas aussi frontal peut-être, mais c'est que simplement, on entend Dieu parler, et lorsqu'on lit la parole, on s'aperçoit que tiens, finalement, peut-être que ce que j'ai entendu, ce n'est pas tout à fait ça. Et nos arguments sont bien fondés sur le livre. Et c'est facile alors de désobéir à Dieu. Parce que nous avons trouvé même dans le livre des arguments pour ne pas agir selon ce que Dieu nous demande de faire. Jésus n'a jamais considéré que ceux qui le côtoyaient de près étaient ceux qui le connaissaient le mieux. Il n'a jamais pensé ça. Lorsque, après avoir expliqué la parabole du semeur, des gens sont venus lui dire, écoute, il y a ton frère, tes frères et ta mère qui viennent pour te voir. Il leur a répondu, mais qui sont mes frères et ma mère? Seuls ceux qui font, qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique sont mes frères, ma mère, mes sœurs. Donc ce n'est pas la proximité avec Jésus, ce n'est pas la connaissance de Jésus qui fait que Jésus nous connaît bien Alors, il nous connaît bien, ça c'est sûr, mais ça ne veut pas dire que nous, nous le connaissons. Est-ce que nous entendons la parole de Dieu? Est-ce que nous sommes en mesure d'agir sur cette parole? Est-ce que nous pouvons vérifier qu'en agissant, nous avons, parce que Dieu nous a répondu, nous avons la preuve que nous avons écouté la bonne parole? Pierre, sur le lac, alors qu'il avait pêché toute la nuit, a agi. Sur la parole de Jésus qui lui a dit « Jette ton filet !» Oui, non, mais mais sur ta parole, je jette mon filet. Et la pêche a été miraculeuse. Maître, nous avons travaillé toute la nuit. Mais sur ta parole, je jetterai mon filet. Le fait de bien connaître Jésus ne fait pas de nous ses favoris. C'est notre obéissance qui le glorifie et qui nous rend dignes d'être appelés ses frères et ses sœurs. L'écoute, c'est une chose. Et le psalmiste nous enseigne aussi quelque chose d'autre dans ce petit verset. C'est que la marche se fait par la foi. Nous ne marchons pas pour nous-mêmes, ni par nous-mêmes, mais par la foi en Jésus-Christ, pour Jésus-Christ. Je me souviens, lorsque nous étions en Angleterre, on nous a demandé souvent, mais quand on était sur le point de partir, vous allez où? Vous allez faire quoi? Et moi je disais simplement, je sais qu'on va en France, mais je ne sais pas où, et je ne sais pas ce qu'on va faire. Mais ce que je sais, c'est que le Seigneur va nous le montrer. Et c'est ce que le Seigneur a fait. N'est-ce pas? Marcher par la foi, ce n'est pas de penser que le Seigneur va nous dire « Ah, tu vas aller là, tu vas faire ceci et tu vas faire cela. » Marcher par la foi, c'est ne pas savoir où aller, mais être sûr que Jésus-Christ lui-même le sait et que rien ne pourra l'empêcher d'accomplir ce qu'il a prévu et les plans qu'il a prévus pour votre vie et la mienne. Le psalmiste dit « Ta parole est une lampe à mes pieds. » Ce n'est pas une lampe qui éclaire mon univers entier. C'est une lampe qui éclaire les pieds. Dieu aime que nous lui fassions confiance. Dieu aime que nous ayons confiance en lui au point d'être juste éclairés à nos pieds et de ne pas savoir ce qu'il y a au-delà. Lorsqu'Abraham est parti, Dieu ne lui avait pas dévoiler, développer un projet d'avenir sur 5, 10, 15, 20 ans. Ah, il lui a dit, tu iras à Canaan. Sur le plan naturel, on peut savoir qu'on va aller travailler là, qu'on va aller habiter là, qu'on va construire. construire une maison, qu'on va faire ce genre de choses-là. C'est fait partie de la vie quotidienne, c'est normal. Mais lorsqu'on confesse que Dieu est une lampe à nos pieds, alors on confesse que c'est lui qui maîtrise tout ce qu'on ne voit pas, que c'est lui seul qui sait. Et lorsqu'on l'aime, on accepte de ne pas savoir, parce qu'on a la foi, parce qu'on a une confiance aveugle dans le Maître. Sophie parlait de l'abandon. La marche par la foi, c'est l'abandon total. Et vous pouvez inverser la chose. L'abandon total seulement correspond à la marche par la foi. Il y a un témoignage de cette foi d'Abraham dans Hébreux, au chapitre 11 et au verset 27. Non, pardon, c'est Moïse. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi. Car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Lorsqu'on dit qu'on a foi en Dieu, les tempêtes les plus terribles, la mort, les puissances démoniaques, les attaques, la maladie. Tout cela ne peut pas venir s'opposer à la certitude que Dieu nous aime. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et quand Dieu nous aime comme cela, alors la foi naît en nous et elle grandit. Et elle grandit, et plus la foi grandit, plus les tempêtes peuvent venir. Et plus nous pouvons nous attacher à Dieu. Comme, écoutez, comme voyant ce qui est invisible. Est-ce que nous voyons ce qui est invisible ? C'est un peu paradoxal, n'est-ce pas? Nous ne voyons pas ce qui est invisible, mais c'est ça la foi. La définition de la foi est là. Voir ce qui est invisible. Dieu ne veut pas nécessairement nous dire ce qu'il va faire de nous ou avec nous. Il veut nous convaincre de qui il est. Dieu nous a sortis de la servitude. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'avoir été dans le pays d'Égypte. Est-ce que vous en rappelez d'avoir été dans le pays d'Égypte? Est-ce que ça, ce récit vous parle? Est-ce que vous vous êtes déjà dit, mais moi j'étais en Égypte. J'étais dans la servitude. Et Dieu m'a redonné ma dignité. Dieu m'a libéré de la servitude et de l'esclavage. Si vous connaissez Dieu vous ne vous faites pas de soucis pour l'avenir, n'est-ce pas? Parce que si vous faites des soucis pour l'avenir, alors vous avez un problème de relation avec Dieu, parce que vos soucis vous empêchent de voir Dieu. Et alors on passe son temps à lui demander de les enlever, les soucis. Alors que lui, il nous invite à regarder au-delà des soucis. Et tant qu'on est là en train de lui demander de les enlever, on n'est pas en relation avec lui. Est-ce que vous demandez à Dieu de vous enlever vos tempêtes et vos déserts? Ou est-ce que vous voulez lui laisser la possibilité d'accomplir son œuvre en vous, au travers des tempêtes et des déserts? Il y a un troisième enseignement que je tire de ce verset, qui est que la marche nécessite de la persévérance. Vous me direz, moi, la persévérance, je ne connais pas. Ça ne fait pas partie de mes qualités, la persévérance. Je suis impatient. Et tout ce que je commence, si ça ne marche pas dans les 20 secondes, j'abandonne. Alors, laissez-moi vous dire que si vous êtes comme ça, vous êtes béni. Parce que si vous êtes persévérant naturellement, alors, il y a de fortes probabilités que le Seigneur vous amène dans le désert lui-même. Lorsqu'on a une lampe à ses pieds, je l'ai déjà dit, on ne voit rien, juste ce qui est devant. De toute façon, essayez avec une lampe à pétrole ou une sorte de chose comme ça. Je me rappelle en Roumanie, je suis arrivé dans une cour de ferme. Et on me dit, ah, ici, il y a de l'électricité. Il y avait une lampe, une ampoule de 25 watts pour éclairer la cour de ferme. La seule chose qu'on pouvait voir, c'était l'ampoule. Tout ce qui était autour était noir. Remarquez, ailleurs, il n'y avait même pas l'ampoule. Et l'ampoule, elle servait pour toutes les pièces. Chaque fois qu'il fallait changer, on enlevait l'ampoule, on allait dans une autre pièce et on la branchait. N'est-ce pas? Lorsqu'on marche avec une lampe comme ça, on ne voit rien. Mais dans les déserts, c'est pareil. Lorsqu'on marche, qu'est-ce qu'on voit? On voit les pieds de celui qui est devant et on essaye de ne pas le quitter, de ne pas le perdre, de perdre... se retrouver tout seul, n'est-ce pas? Et dans le noir, c'est pareil, on voit juste les pieds de celui qui est devant. C'est un spectacle extraordinaire, les pieds. Oui, qu'ils sont beaux, les pieds, c'est vrai. C'est vrai. Mais dans le désert, ou la nuit noire, avec juste une lampe, il n'y a rien. Il n'y a rien. Si, la routine. Vous connaissez? La routine. Autant dire rien. Autant dire les pieds de mon voisin. C'est ça. De tous les jours. Si vous êtes quelqu'un de persévérant, naturellement, alors le Seigneur va vous amener dans la routine. La routine a une fonction extrêmement importante pour nous, les enfants de Dieu. Parce que ça donne à Dieu, mais surtout à nous-mêmes, des indications sur les dispositions réelles de notre cœur. Dans Deutéronome 8, au verset 2, Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Dieu ne veut pas des combattants,
des gens qui sont des durs et qui arrivent coûte que coûte
à l'objectif qu'ils se sont fixé. Il veut des gens qui apprennent, capables d'apprendre la persévérance spirituelle. Dans Néhémie 4, verset 14. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Après la persévérance spirituelle, Dieu veut aussi nous apprendre l'efficacité spirituelle. Et dans le psaume 105, verset 5, Dieu veut nous apprendre la crainte de son nom. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Le problème des croyants qui veulent servir Dieu, souvent c'est qu'il veut faire des prodiges. Il veut faire des grandes choses. L'apôtre Pierre avait dit à Jésus, avant qu'il devienne un apôtre, je donnerai ma vie pour toi. Pierre voulait que Jésus pense du bien de lui. Pierre voulait impressionner Jésus. Il voulait dire, oh, c'est bien. On retrouve cette attitude parfois chez ceux qui veulent partir en mission, n'est-ce pas? La fleur au fusil. Ils veulent être vus comme des battants, défendant une cause juste, des personnes zélées, courageuses, des héros. Dieu n'a pas besoin de héros pour le servir. Il a besoin de serviteurs fidèles, persévérants, ayant appris l'efficacité spirituelle et portant en eux la crainte de son nom. Il a besoin de serviteurs fidèles qui, au milieu d'une routine qui nous pousse parfois à être négligents et à ne pas obéir aux commandements, il a besoin d'avoir des serviteurs qui tiennent ferme dans ces conditions-là. Il a besoin de serviteurs qui se souviennent des prodiges que Dieu a accomplis dans leur vie et qui se garde du péché jour après jour. Josué 6, gardez-vous de ce qui est dévoué par interdit. Dieu veut bien que nous lui offrions nos vies, à la condition qu'elles soient utiles pour lui. Ne demandons pas au Seigneur de nous enlever nos tempêtes et nos déserts. Il risquerait d'avoir pitié de nous et de nous exaucer pour notre confort immédiat. Mais l'objectif principal ne serait pas atteint. Le Seigneur veut faire de nous des serviteurs remplis de l'Esprit de Dieu, capable de vivre au milieu de la routine, capable de vivre en ayant juste en vision les pieds de nos voisins. Vous savez que les pieds sont à laver. se lavent les pieds les uns des autres. N'est-ce pas? Il nous veut fidèles et persévérants jusqu'au bout pour l'honneur et la gloire de son nom. Et en conclusion, je laisserai un verset dans 2 Timothée. 2, verset 11. Verset 13, cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Je vais prier. Seigneur, si nous pouvons régner, c'est parce que toi tu règnes. Si nous pouvons marcher la tête haute, triomphant, c'est parce que toi-même, ô Dieu, tu as triomphé à la croix. Seigneur, merci de nous rendre capables. Merci, Seigneur, de faire de nous des hommes et des femmes utiles entre les mains de leur maître. Merci, Seigneur, de faire en sorte d'accomplir ta parole. Parce que, Seigneur, nous ne sommes pas capables, nous, d'accomplir ta parole. Seigneur, nous voulons nous confier en toi et sur ta capacité, sur ce que tu es et sur ce que tu veux être en nous. Seigneur, nous voulons avec toi marcher là où tu nous envoies, écouter le son de ta voix et agir selon la parole que tu nous as donnée. Seigneur, je prie que ce jour, Seigneur, soit un nouveau jour pour chacun. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, j'entendais. Chut.